Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Moshimashi.
もしもし。もしもし。
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à deux cinéastes asiatiques récemment mis à l'honneur par Carlotta Film. Carlotta Film qui n'a pas fait les choses à moitié puisque ces deux cinéastes ont vu à la fois ressortir leurs œuvres dans des copies magnifiques au cinéma et également en Blu-ray DVD. Ces deux cinéastes, ce sont le Philippin Mike De Leon, qui s'est vu donc consacrer un superbe coffret, et le Japonais Shinya Tsukamoto, qui lui aussi donc s'est vu consacrer un très très beau coffret. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mottier pour son aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com. Sur celui des films de la Gorgone également, lesfilmsdelagorgone.fr, et puis évidemment chez tous les bons libraires. Pour causer cinéma asiatique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne. Cet archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées est également le créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Thomas Roland est également présent dans ce studio, celui que l'on surnomme le loup-garou Picard, créateur de À l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut Damien, salut GG et bien évidemment salut à toutes.
Nous sommes aujourd'hui réunis, les amis, pour évoquer deux cinéastes asiatiques. L'un qui est quand même assez connu des cinéphiles et l'autre qui l'est beaucoup moins. On peut remercier d'ailleurs grandement Carlotta Film pour avoir fait sortir comme ça de l'ornière, de l'oubli dans lequel il végétait Mike De Leon. Et on va lui consacrer une grande partie de l'émission. Mais avant de revenir sur Mike De Leon, ce cinéaste philippin hein, qui est comment dire, un cinéaste vraiment dont on a apprécié grandement la découverte, donc on veut revenir longuement dessus avec toute l'équipe. Je vais revenir, moi, dans la première partie de l'émission, sur un autre cinéaste, dont on a déjà parlé dans l'émission, mais qui est assez peu prolifique ces dernières années, et qui est un cinéaste japonais assez fascinant, c'est le cas de le dire, et qui s'appelle Shinya Tsukamoto. Alors Shinya Tsukamoto, c'est un cinéaste qui a complètement traumatisé une certaine génération de cinéphiles, en particulier ben, la mienne, hein, puisque quand on a découvert ses premiers longs-métrages, on est tous restés assez scotchés. Ça, c'était grâce à l'entremise d'un certain Jean-Pierre Dionnet, qui a fini d'ailleurs par les sortir en DVD sous forme de double programme. Et en particulier, on était assez estomaqué par les visions de Shinya Tsukamoto, hein, ce côté très transgressif, un cinéma très radical, très expérimental, qui a produit quand même des choses hautement incroyables d'un point de vue visuel, et en particulier Tetsuo, hein, qui est vraiment le premier film, hein, qui sort à la fin des années 80, en 89, que l'on va tous découvrir. Mais avant Tetsuo, il y a toute une partie de la vie de Shinya Tsukamoto que l'on ne connaissait pas ou connaissait peu et qui est particulièrement bien décortiqué en fait dans le livret, hein, qui accompagne le coffret Shinya Tsukamoto qui est sorti chez Carlotta Film, un livret qui aborde toute la carrière de Tsukamoto et qui limite pas aux 10 films présents dans le coffret, et qui est un livret signé Julien Sévéon, l'ami Julien Sévéon, qui est déjà venu dans cette émission, hein, pour nous parler de Massacre à la tronçonneuse, entre autres, mais qui est aussi un grand spécialiste du cinéma asiatique, qui anime la partie asiatique, hein, de Man Movies, les quelques signes qu'il y a sur le cinéma asiatique à chaque numéro. Et il rappelle à juste titre, Julien Sévéon, qu'à la fin des années 80, il y a 3 cinéastes qui vont marquer les cinéphiles, ce qui est vrai. Il y a John Woo, dont on va découvrir The Killer. Après, on va découvrir des autres films à toute épreuve, tout ça. Mais enfin, on découvre The Killer, c'est par The Killer qu'on est tous scotchés. Hein. Tous ces films qui arrivent en 89, en fait. Hein. Donc, il y a The Killer, il y a Takeshi Kitano avec Violent Cop, qui est un autre cinéaste japonais, lui, alors que John Woo est hongkongais. Violent Cop qui va traumatiser, là, c'est pareil, qui va tous nous scotcher par sa violence incroyable. Et ce cinéaste qu'on va tous découvrir, qu'on connaissait tous comme l'animateur d'un jeu télé un peu étrange, le Takeshi Kitano's Castle, et qui passait sur des chaînes du câble sans sous-titres, un truc un peu maso, hein, où les participants acceptaient de se faire humilier dans des épreuves très très dures, une sorte de version hardcore de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur certains jeux télé, TF1 et compagnie, mais une version hardcore mais rigolote, hein, voilà, qui était assez délirante. Et on a découvert qu'il était aussi réalisateur de cinéma et qu'il pouvait produire des œuvres assez radicales. Et puis, encore plus radical, arrive la même année Tetsuo, donc de Shinya Tsukamoto. Et Tsukamoto, effectivement, parmi ces trois-là, c'est celui qui va tracer la carrière la plus chaotique, pourrait-on dire, à l'image de ce premier long-métrage, Tetsuo. Et la plus chaotique, mais aussi la plus singulière. Alors, je ne dirais pas la plus passionnante, parce que ce serait aussi oublier les apports dans l'histoire du cinéma très importants de John Woo et de Takeshi Kitano, mais en tout cas très différent de ces deux hommes. Kitano se dirigera plus vers un cinéma d'auteur qui va être de plus en plus hermétique au fur et à mesure de l'évolution de sa filmographie, tandis que John Woo, lui, va s'aventurer du côté d'Hollywood, ce qui ne va pas forcément lui réussir complètement, et puis il va revenir ensuite sur le continent asiatique, et là, il va de nouveau produire des choses extraordinaires à l'image des trois royaumes. Et ce qui est intéressant dans le livret de Julien Sévéon, c'est qu'on découvre tout sur les années 8 mm de Tsukamoto, tous ses petits films, tous ses courts-métrages. Je ne sais même pas comment Julien Sévéon a fait pour voir tout ça. Il nous décrit, hein, tous ses courts-métrages et aussi le parcours théâtral de Shinya Tsukamoto, qui très vite a créé des troupes de théâtre, a œuvré dans le théâtre. D'ailleurs, si on le voit peu au cinéma ces dernières années, c'est aussi parce qu'à côté, il fait du théâtre. Voilà. Et il rappelle un truc très intéressant, Julien Sévéon, c'est que de par son année de naissance, Tsukamoto, c'est aussi l'un des premiers réalisateurs importants japonais qui arrive, fait partie de cette génération, en tout cas, qui n'a pas connu la guerre et qui n'a pas connu aussi les grands mouvements politiques révolutionnaires qui ont eu lieu dans le Japon dans les années 60, puisqu'il était enfant. Voilà, donc à la fin des années 60, début des années 70. Donc c'est des cinéastes qui vont amener, comme un peu son notion, tout ça, qui vont amener quelque chose de différent, pas forcément dépolitisé, mais politisé autrement, et qui vont se consacrer à d'autres sujets, et en particulier le cinéaste qui nous intéresse là, Tsukamoto, qui va se consacrer plus particulièrement à construire une esthétique qu'on peut qualifier de cyberpunk, avec le fait de l'influence des machines sur le corps humain, qui va être une de ses obsessions. On le rattache souvent au body horror, mais c'est plutôt lui à la technologie qui s'intéresse et à son influence, comment elle peut modifier jusque la chair de l'être humain. Et c'est vraiment ce qui apparaît d'ailleurs dès l'un de ses premiers cours, en tout cas son premier court-métrage culte, qui est, comment dire, Les aventures de Denshu Kozo, qui est dans le coffret, et qui raconte quand même une histoire hautement improbable, puisque c'est un personnage qui est né avec un poteau électrique dans le dos. Voilà, et ce personnage, il va être propulsé dans un futur, 25 années plus tard, il va être propulsé dans un futur, et il est recueilli alors par une femme qui lui explique que des vampires dominent le monde et qui tiennent l'humanité, en tout cas ce qu'il en reste, en esclavage, et que c'est lui, Denshu Kozo, le seul espoir pour l'humanité. Ça va donner un film complètement délirant, qui est une sorte d'ébauche esthétique, plastique, à ce que donnera un film comme Tetsuo, qui est son premier film, en fait, tourné en 16 mm. Et Tetsuo, c'est un film qui va profondément marquer donc les cinéphiles. Hein, dans le livret, Julien Sévéon explique très bien l'importance que peut avoir un film comme Tetsuo, le retentissement mondial de ce film, qui est une sorte de croisement entre le David Lynch, s'il faut faire des références, parce qu'on essaie tout le temps de mettre les gens dans des cases, mais le David Lynch d'Eraserhead, pour le noir et blanc un peu barré et un peu étrange, presque baroque, et de l'autre côté, le cinéma de Cronenberg et la nouvelle chair. Voilà. Et c'est... Tetsuo, c'est vraiment un film très très étrange. Moi, je me rappelle cette première vision qui m'avait vraiment traumatisé. Alors, l'histoire est assez simple, hein. L'histoire est assez basique, hein. C'est surtout un délire visuel. C'est un film très court, hein. Ça dure à peine plus d'une heure. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'insère en fait une tige métallique dans la cuisse. La plaie, elle s'infecte assez rapidement, en fait, hein, et du coup, il est effrayé par ce qu'il voit se développer dans sa cuisse, et il s'enfuit en courant, il se fait percuter par une voiture, et le conducteur se débarrasse, en fait, du cadavre, et puis un jour, il se rend compte que, peu de temps après, il y a un morceau de métal qui émerge de sa joue, et son corps va devenir un aimant qui va attirer tous les détritus métalliques de la ville. Alors, ce qu'on apprend dans le livret de Julien Sévéon, c'est que le tournage est un véritable enfer, que c'est tourné dans l'appart d'un pote, hein, le fameux Kei Fujiwara, qui joue dans le film, enfin bon, de toute façon, et Shinya Tsukamoto joue aussi pratiquement dans tous ses films. Hein, voilà. Et le tournage est un enfer, ça se passe très mal, ça se termine avec un film complètement fou, complètement dingue, un truc comme on en a rarement vu quand même au cinéma, et qui est franchement un film où il y a déjà les obsessions de Tsukamoto qui vont se développer après dans toute sa filmographie.
Il se blesse avec du métal, et heureusement pour lui, ou malheureusement pour lui, c'est pas le tétanos qui l'attrape. C'est un film extrêmement charnel, vraiment très sanglant. Tu l'as comparé au Body Horror, et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu cette impression. Mais il y a toute l'esthétique, encore une fois, comme tu l'as dit, cyberpunk, transhumaniste, et pourtant on est en 89, soit littéralement du film, mais surtout il y a son montage qui est assez particulier, quelque chose de très dynamique, fiévreux, comme un véhicule lancé à vive allure, mais plus comme une maladie qui ferait délirer exactement ce qu'est le film. Au final, la technologie apparaît comme un virus qui se propage entre malédiction ou chance selon les plans. Et aujourd'hui, c'est un film qui serait, à mon avis, très dur de revoir, notamment dans la façon dont il a été fait, mais aussi le fait qu'il est sorti en salle. Et de manière assez particulière, ce serait plus sur des plateformes très numériques et technologiques comme éventuellement YouTube ou Twitch, où on pourrait avoir une expérimentation pareille, ce qui en fait un film... véritablement unique en son genre.
Écoutez l'équipe de Culture Prohibée évoquer le cinéma de Shinya Tsukamoto. coffret que sort Carlotta Film, le coffret consacré à Shin Tsukamoto, contient pas tous ses films parce qu'il avait fait quand même pas mal de films, mais il y a Tetsuo 2 Body Hammer, qui est un film de 92 et qui est une suite remake. On n'a jamais vraiment, pour moi c'est ni une suite ni un remake, c'est plutôt une réinterprétation qui raconte l'histoire d'un couple qui se promène avec son petit garçon. On enlève leur fils. Les parents, évidemment, sont pris de panique. Ils courent après les voleurs pour reprendre leur gamin. Ça, c'est normal. Mais les malfrats reviennent enlever à nouveau le fils dans le domicile familial alors que les parents l'avaient sauvé la première fois. Et le père devient complètement dingue. Il poursuit le kidnappeur. Et par accident, il fait exploser son môme. Ça démarre comme ça. Et déjà d'entrée de jeu. Alors malheureusement, ça ne tient pas toutes ses promesses. C'est-à-dire que le film est vraiment très bien, mais il essaye de faire un film plus clair, moins barré, plus accessible que son Tetsuo. Et certaines images sont vraiment marquantes. Hein, l'explosion de l'enfant et tout, c'est quelque chose. Ça va encore plus loin que le premier Tetsuo, dont on n'a pas dit aussi qu'il était dans un noir et blanc, parce que c'est un cinéaste qui maîtrise très bien le noir et blanc comme la couleur. Donc il a alterné noir et blanc et couleur, voire parfois il a fait de la couleur qui était presque du noir et blanc. Enfin, c'est un cinéaste là-dessus qui est assez particulier. Et il y a quand même des scènes assez incroyables où on est vraiment dans l'univers que j'appellerais cyber-organique de Tsukamoto, où en fait, parce qu'il y a une secte et tout, enfin, il y a plein de trucs assez délirants dans le film. Et il y a un moment où il y a les êtres humains rentrent dans une sorte d'entité qui devient une sorte d'énorme entité mécanique, où en fait, du coup, l'être humain devient une sorte de rouage de la machine, qui est vraiment, bon, là, on retrouve tout le propos de Tetsuo. Autre film qui, pour moi, et mon film préféré de Tsukamoto qui est dans le coffret, c'est Tokyo Fist, un film de 95 où on suit un salaryman hein, qui a une existence en fait assez banale, tristement banale, j'ai envie de dire, qui travaille dans une grosse boîte à Tokyo et qui habite un immeuble déshumanisé du centre-ville avec sa petite copine. Et puis, tous les jours, quand il rentre du boulot, il rencontre un pote d'enfance qui est devenu boxeur à moitié pro, enfin, c'est pas trop, voilà. Et dont l'univers, bah, évidemment, n'est pas du tout le même que le sien. Ils n'ont pas eu du tout la même trajectoire. Et tout à coup, cet ami, un jour, sans explication, le tabasse violemment, le laisse mourant. Mais le truc, c'est qu'en fait... ça va plutôt lui plaire à ce salaryman et ça va développer du coup un film complètement barré d'un trio. En fait, on va suivre ce trio, donc ces trois personnages, je viens de vous parler, qui va en fait expérimenter toutes les limites qui sont les limites de leur corps. Voilà. Tout ce qu'un corps peut supporter en termes de douleur, de violence, ça va donner un film en fait qui a comme propos, c'est un propos très body horror, hein, voilà, c'est de dire que en fait dans ces sociétés déshumanisées, c'est un propos qu'on retrouve dans le Crash de Cronenberg, ce sont ces deux cinéastes très proches, il faut souffrir et s'infliger des souffrances pour se sentir vivant, voilà, et c'est le principe du film. Et là, on retrouve dans celui-ci son montage épileptique complètement barré. Et là, on retrouve un mixage entre le son et l'image qui est complètement barré, comme on avait dans le premier Tetsuo. Et on est aux anges. Pour moi, c'est le meilleur film du coffret. Alors, faut qu'on parle de Mike DeLeon. Donc, je vais faire vite sur les autres films du coffret. Il y a Bullet Ballet, qui est un film de 98, où la compagne d'un homme se suicide. Pour comprendre son geste, il se rapproche d'un gang. Et bon, il est passé à tabac, il est humilié. Et il va nouer une relation avec la seule femme du gang. Et en même temps, il va nourrir une obsession pour obtenir une arme à feu qui lui appartienne. Film très étrange. On retrouve le noir et blanc, là, cette fois-ci. On est dans quelque chose qui ressemble presque à du cinéma d'auteur européen. C'est pas mon préféré. Alors, c'est intéressant comme portrait de la jeunesse tokyoïte japonaise et tout, mais c'est pas mon préféré dans le sens où, dans la deuxième partie du film, j'arrive pas vraiment à comprendre tout ce que veut me raconter Tsukamoto. Je trouve que le film est un peu... confus. Et après, il y a un de mes films préférés, par contre, que j'aime beaucoup, A Snake of June, un film de 2002, qui raconte l'histoire de Rinko, d'une jeune femme de 30 ans, assistante sociale, qui s'ennuie, qui passe son temps à converser au téléphone avec des gens qui sont en détresse psychologique, qui est marié à un homme d'affaires plus âgé qu'elle, qui est complètement obsédé par la propreté, et qui préfère dormir plutôt qu'avoir une vie sexuelle avec elle. Et il y a un intrus, interprété par Tsukamoto lui-même, hein, on peut se poser la question, voilà, qui va intervenir dans ce trio, qui va arriver dans le film, et qui va amener le couple à recimenter leur couple autour de la sexualité, parce que ce que je vous dis pas, c'est que c'est un pinku eiga, c'est un film érotique, voilà, et c'est un film vraiment où on évoque des pulsions rarement évoquées dans un cinéma, on va dire plus policé, par exemple l'obsession voyeuriste du personnage masculin qui se masturbe en observant sa femme, le côté exhibitionniste de cette femme, et il y a aussi un truc important, parce qu'on était sur un cinéaste qui mélange, comment dire, les éléments, c'est un truc qu'on retrouve souvent, et là il y a le rôle de l'eau qui va tenir un rôle primordial dans la sexualité du couple. Et bon voilà, je vous invite à voir Snake of June, qui est vraiment pour moi un des meilleurs films de Tsukamoto, souvent un peu oublié dans sa filmo, et pourtant Tsukamoto est un grand réalisateur érotique, hein, ça, l'érotisme semble être quelque chose qu'il travaille particulièrement. Il y a Vital en 2004 qui raconte l'histoire d'un... Ça, c'est un film très particulier aussi quand même. On n'a pas le temps de tout dire, de tout développer, mais c'est l'histoire d'un étudiant qui perd sa copine dans un accident de voiture, et lui va être amnésique. Donc il n'arrive pas à faire le deuil de cette femme, dont il se rappelle plus du tout, puisqu'il est devenu amnésique. C'est un truc vraiment tordu. Et un jour, en cours de médecine, il va se retrouver à devoir faire une autopsie, sauf que le corps et qui va autopsier, c'est le corps qui, bien involontairement, est arrivé sur la table d'opération, le corps de sa petite copine décédée. Voilà. Et entre deux, il a refait sa vie avec une autre femme et tout. Et du coup, le film va jamais aller dans le graveleux, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais question de nécrophilie, rien du tout, mais il va développer quand même quelque chose de très gonflé, c'est-à-dire que plus on va avancer dans l'autopsie du corps, dans la découpe, quoi, plus, en fait, ses souvenirs vont rejaillir et il va pouvoir faire le deuil de cette femme et son amour pour elle va lui réapparaître. Faut avouer que c'est gonflé, quand même, comme sujet. Et c'est très, très réussi. Et c'est vraiment un film, moi, que je trouve très à part. Il y aura Haze aussi de 2005. Sur l'histoire, c'est un film plus court d'un homme qui se retrouve coincé dans un labyrinthe qui peut rappeler un peu le cube de Vincenzo Natali, mais qui est en 16 mm. Et donc, quand Tsukamoto retrouve le 16 mm, il retrouve aussi des pulsions à la Tetsuo dans la mise en scène qui devraient vous plaire. Et puis, il y a deux films que j'ai découverts en regardant ce coffret. Un film qui m'a laissé un peu de glace, c'est Kotoko, un film de 2011, où une jeune femme célibataire interprétée par la chanteuse Coco, qui évidemment est une superstar au Japon, vit seule avec son bébé, qu'elle maltraite, parce qu'elle a des désordres mentaux, et elle voit les personnes en double, ça l'empêche de distinguer le réel de l'imaginaire, elle souffre d'un syndrome de persécution, et elle bat ses voisins, enfin, très particulière, et on lui finit par, lui retirer son enfant, et le donner à sa sœur. Et puis un jour, elle rencontre un écrivain à succès qui est inquiet et fasciné par le comportement de la jeune femme et une relation amoureuse violente va naître entre eux. Et il faut savoir que c'est un film que Tsukamoto a fait en s'inspirant de la vraie vie de Coco. Au départ, c'est des entretiens qu'il a eu avec Coco, qui est vraiment une star au Japon, mais qui a aussi eu beaucoup de problèmes mentaux, psychologiques, et qui s'est confié à cœur ouvert à Tsukamoto, et Tsukamoto a décidé d'en tirer un film, mais on a l'impression sincèrement qu'il se laisse un peu vampiriser par son actrice, sa muse, son sujet, et on perd un peu le cinéaste qu'on avait aimé dans des trucs un peu plus hardcore. Par contre, il y a des moments très hardcore, hein. En particulier tout le début du film. Et il y a des scènes quand même assez gonflées. Et il filme très bien la folie, mais ça, vous ne serez pas surpris de l'apprendre. Et enfin, dernier film qui est une découverte que je n'avais pas vue, que j'étais très content de voir, c'est son film de Shambara, qui est un film qui s'appelle Killing, un film de 2018, qui est en fait un film qui raconte, c'est un Shambara qui raconte l'histoire d'un ronin qui ne veut pas se battre. Donc c'est un film assez... alors, c'est pas son meilleur film, mais assez génial pour cette idée particulière, qui est que c'est un film, en fait, c'est un anti-Chambara. Il arrive à en respecter toutes les conventions esthétiques, on a tout, on a les geysers de sang, on a tout ça, enfin, tout ce qu'on aime, dans la forme, hein, mais c'est un film sur, quand même, un type qui veut pas se battre, alors quand même, l'essence même du film de Chambara, c'est les grosses bastons au sabre, voilà. Et donc, c'est un film vraiment très étrange, très particulier, très singulier, qui est plus un drame, en fait, sur la condition humaine, et en cela... Il se rapproche plus de grands classiques comme Harakiri, par exemple, sans en atteindre le niveau, hein, mais dans le côté introspectif, dans le côté réflexif sur l'âme humaine. Donc, et il s'inscrit pleinement dans une certaine tradition, en fin de compte, du cinéma japonais, même s'il prend le contre-pied du genre dans lequel il est censé s'inscrire. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial cinéma asiatique.
Effectivement, tu disais, Gégé, que tu remerciais Carlotta de nous faire découvrir Mac de Leon. Effectivement, pour moi, c'est une vraie découverte. Hein. Je suis très content d'avoir découvert ce cinéaste qui est assez différent quand même de Lino Broca. Lino Broca qui fait un peu quand même des films toujours un peu sur le même ton, hein, des films assez brutaux, assez noirs, mais qui se passent souvent dans des milieux misérables, populaires, hein, dans les bidonvilles de Manille. Là, c'est assez différent, même si c'est pas forcément les films les plus gays que j'ai vus ces derniers temps. Et moi, j'étais séduit tout de suite. Hein. Dès le premier film, j'étais séduit. Il s'appelle It Him, qui est un film fantastique. Un film fantastique. Et sa façon d'aborder le fantastique, alors moi j'aime bien parce que c'est pas du tout spectaculaire. C'est un film très âpre, très sec, et qui est une histoire de fantômes. Et avec des images un peu oniriques, un peu cauchemardesques. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la filmographie de Mac de Leon. Ces images un peu oniriques, hein, parfois, qui ponctuent certains de ses films. Mac de Leon, là, donc là, il y a 8 longs métrages. Et c'est un cinéaste qui est assez différent de Lino Broca, dans le sens où c'est un cinéaste qui est beaucoup plus éclectique. Parce qu'il aborde le fantastique, le drame, la comédie romantique... le film plus ou moins historique, mais surtout, c'est aussi, il rejoint Lino Broca dans le sens où c'était un cinéaste très politique. Parce que ce qu'on peut dégager un peu de ses films, en dehors de ses comédies romantiques qui sont quand même très différentes de ce qu'il fait d'habitude, même dans que ce soit un drame ou un film policier ou un film fantastique, il parle un peu toujours de la même chose. Il parle de la manipulation, il parle de l'emprise d'une administration, d'une personnalité sur les autres, notamment sur les femmes. Hein. Les femmes ont des rôles très importants. Et donc, It Him parle de ça, de l'emprise d'un homme sur une femme. Hein. On voit très vite où il veut en venir. Quand on connaît le cinéma fantastique, qu'on aime bien, on voit très vite où il veut en venir. Mais pour moi, c'est vraiment l'un des 3 meilleurs films de Mac de Leon, de ce coffret. Je retiens aussi Kisap Mata. Alors là, Kisap Mata, c'est vraiment très, très noir. C'est un film... dramatique, policier, encore une fois, on nous parle de manipulation, d'emprise. Et c'est l'histoire d'une jeune femme dont le père est quand même plutôt possessif. Alors là aussi, on devine très vite ce qui se passe. Hein. Dont le père est assez possessif. Et cette jeune femme veut se marier. Elle veut se marier avec un collègue du bureau de qui elle est enceinte. Mais ça va pas se passer comme ils veulent, quoi. Au fur et à mesure, le père va resserrer son emprise sur eux et va obliger l'époux à vivre dans leur maison avec eux, quoi. Donc, évidemment, ça va mal se passer. Surtout qu'il y a un panneau au début qui nous dit que le film s'inspire d'un crime qui a réellement eu lieu. Alors pendant tout le film, on se dit, mais qui va tuer qui ? Parce que la tension, elle monte petit à petit. C'est très noir, c'est très sec, c'est très âpre. Enfin, moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce genre de mise en scène. Et encore une fois, on retrouve des images oniriques. C'est très beau. Moi, je trouve que c'est très bien découpé. Hein. C'est peut-être du cinéma, effectivement, avec des petits budgets. Mais je trouve que ça ne se voit pas à l'écran parce qu'il y a une vraie maîtrise de la mise en scène, une vraie direction d'acteur qui fait que les films ont quand même une certaine stature, une certaine facture qui font que on ne voit pas le petit budget qu'il y a derrière. Et il y a aussi un autre film qui est aussi très, très noir, hein, qui est Batch 81. Alors, c'est une histoire, c'est des films sur les communautés étudiantes. Alors là, c'est... Bon, il ne fait pas de concession, Mac de Leon. Hein. On se dit... Alors déjà, ça commence pas bien. On se dit, ça va forcément se terminer très mal. Effectivement, ça se termine très mal. Et le film, c'est très noir. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de lumière à la fin. Et encore une fois, on nous parle de manipulation, d'emprise. Effectivement... Et comme on peut le voir dans les courts-métrages qui sont des documentaires, des clips, on va dire de propagande, hein, où il incite les gens à aller voter, notamment à se soulever contre la dictature de Ferdinand Marcos, ou encore pour ne pas, une fois que les Marcos sont partis, afin qu'il ne se passe pas la même chose avec son successeur Duterte, là. Donc, ça, c'est les trois films qui sortent, à mon sens, du lot. Après, je sais, toi, Jérôme, que tu n'aimes pas trop ces comédies romantiques, hein, parce que tu as un cœur de pierre, tout le monde le sait.
Disons que ça me passionne moins. Moi, je trouve que tous les films du coffret sont intéressants. E.T., effectivement, tu l'as dit, qui est un film fantastique. Moi, je comprends pourquoi ça te plaît, parce qu'on dirait presque du Antonioni qui part tourner un film aux Philippines. Hein. Ça a un côté très subtil, c'est vraiment excellent. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, sur Kizapmata, qui est excellent. Peut-être aussi dire que la mise en scène est quand même assez extraordinaire. Cette manière qu'il a d'enfermer dans la maison les protagonistes en faisant des travelling latéraux, en filmant l'étage où ils sont, parce que ça se joue sur un étage, en fait. J'en dis pas plus, parce qu'il y a une correspondance entre deux pièces qui indique quelque chose. Je vais essayer de pas dévoiler. On me reproche parfois, mon cher Thomas, tu me reproches d'évoquer trop le fond des films. Et puis Batch 81, dont tu parlais, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Batch 81, ça peut aussi être vu, évidemment, il y a l'aspect politique, mais comme une série B hyper efficace, parce qu'il a aussi un côté cinéaste très populaire. C'est pour ça qu'il a fait des comédies romantiques, c'est pour ça qu'il a fait des films peut-être un peu moins personnels. Et en particulier, toi Damien, je crois que t'aimes bien, mais il a fait aussi un film complètement barré, qui est une série B délirante, qui n'a pas d'autre but que de divertir, mais pourtant qui fait passer des messages politiques et passionnants, qui est présente dans ce coffret. Ce film, alors il a le titre, il a un titre à l'international qui est plus simple, Frisson, mais il a aussi le titre de Kakabakabakaba, qui se termine par un point d'interrogation. Mais on va l'appeler Frisson, alors un titre sous forme de farce, parce que le film, c'est un peu une farce, mais c'est aussi une farce sérieuse.
Si on regarde tous les films qui sont dans le coffret, c'est-à-dire l'ensemble de sa filmographie, Frisson, c'est vraiment le plus drôle. Et dans ces tons assez tendus, un film drôle comme celui-ci fait extrêmement du bien. En fait, tout le comique repose sur un triangle aussi farfelu que génial, qui est un groupe de musique, des yakuza, saupoudrés de triades, de prêtres et de nonnes dans un mélange totalement grand guignolesque qui est absolument génial. Le héros, l'incarnation du héros, qui est le chef du groupe de musique, il est peureux. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans une maison, il veut pas y aller en premier si jamais il y a une menace. Les mafieux sont incompétents et malchanceux. Il y a une scène où, pour rentrer chez les gens, ils se déguisent en prêtre et ils sont sûrs de leur coup. Du coup, ils vont retenter le coup déguisé en prêtre. Au moment où ils frappent pour rentrer, la personne qui leur ouvre, c'est un prêtre. La présence de ce groupe musical permet aussi à McDonald d'en faire, bon, pas une comédie musicale, mais plus un film musical. Je fais la différence parce que, au final, je considère qu'une comédie musicale est censée avoir des chansons qui font avancer l'intrigue, hormis, enfin, là, à part à la fin, on a une chanson qui nous dévoile en fait l'entièreté de tout. C'est plus des musiques pour être des musiques, avec notamment un petit côté Whoopi Goldberg. Avec des nonnes dans un couvent qui est absolument génial. Et avec tout ce que j'ai dit, les Yakuza et la Trieste, il faut savoir que c'est un film qui tourne autour de la drogue et qui va s'en servir notamment dans une scène expérimentale, parce que Mac DeLeon fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations. On en retrouve dans tous ses films, que ce soit dans E-Team ou dans Back 81. Et c'est du coup, on a une scène expérimentale avec de l'acé mélangé avec une scène de sexe qui est vraiment très chouette à l'intérieur même... du film. Et il fait dans le film un lien qui est assez simple, pour reprendre Max, la religion est l'opium du peuple, et lui il le prend au sens littéral, il va lier religion et drogue, qui est un problème qui est encore présent aux Philippines. C'est ce qu'on évoquait indirectement avec Harry Duterte qui, pour le citer, a exhorté les citoyens à tuer les trafiquants et les clients, ce qui est totalement différent dans l'ambiance du film, qui est vraiment... comédie incroyable. C'est mon film préféré, c'est le moins sérieux, c'est celui qui m'a fait énormément rire, et de l'émotion positive ça fait du bien. E-Team, c'est son tout premier long métrage, et du coup c'est là où on découvre un peu son style de cinéma. On retrouve des thématiques finalement des films d'horreur asiatique, c'est-à-dire qu'on a finalement cette histoire de vengeance et de possession qu'on trouve dans énormément de films asiatiques, avec une femme flouée qui va finalement se retrouver au centre de l'histoire. Et le point qui est intéressant entre Frisson et Tim, c'est qu'on retrouve à nouveau la religion et le catholicisme en centre, avec ce mélange assez syncrétique qui fait, notamment parce que Tim se déroule durant la Semaine Sainte, je crois, et que du coup nous avons des processions qui sont extrêmement physiques, qui sont finalement l'adaptation de la religion à ce territoire. Et on retrouve ce que tu disais, Thomas, avec l'idée de manipulation, ou en tout cas d'autorité, qui prend généralement le pas sur les gens. Et Batch 81 est pour moi celui qui représente le plus, notamment parce qu'on est dans une fratrie. Donc on retrouve tout ce qui est bizutage, qui sont absolument affreux, les humiliations, tout ça. Il prend un point de vue extrêmement dur. C'est un film que j'ai trouvé... vraiment très choquant. Ce qui est intéressant, parce que quand on regarde les films américains qui parlent de fratrie, soit ils disent que c'est horrible à cause du bizutage, soit on se retrouve après l'initiation, donc tout le monde est content de faire partie d'un groupe. Mais lui, il nous fait vivre quasiment une année d'initiation, j'ai l'impression, je ne suis pas sûr, vu qu'il y a un spectacle, mais qu'en Asie, les calendriers sont différents d'une autre pour ce qui est éducation. Le film est extrêmement intense, il ne fait que monter en pression de manière continue. On a juste envie que soit les gens se barrent de la fratrie, soit qu'ils abandonnent. Et l'un des trucs qui renforce tout ça à l'intérieur du film, c'est que je trouve qu'il y a une grosse ambiance nazisme de Seconde Guerre mondiale. On a tout le truc de sectaire et de gourou avec les gens, enfin avec les personnes qui participent, qui doivent appeler maître. On a la scène du spectacle final qui d'abord commence sur un blackface, ce qui est surprenant, et qui enchaîne avec la vision de drapeau nazi, qui est encore plus surprenant, jusqu'à ce que... Alors moi j'ai pris du temps à comprendre, mais ça arrive très vite. Ils font une reprise du numéro de la comédie au cabaret, du coup, qui se passe sous le nazisme et tout. On a une reprise littéralement de l'expérience de Milgram, qui justement a permis d'expliquer pourquoi est-ce que autant de personnes avaient obéi durant le nazisme. Et la chanson Alpha Kappa Omega, c'est une chanson qui me disait un truc, et c'est normal, c'est parce que c'est une chanson traditionnelle allemande, qui est du coup... qui est ici transformé pour faire la chanson de la fraternité, mais qui de base du coup est juste utilisée en chanson, utilisée pour exprimer sa joie à l'appartenance au peuple allemand, un peu comme une hymne. Donc c'est un film qui parle beaucoup d'embrigadement, et il a un effet assez particulier qui me rappelle un peu... À l'Ouest, rien de nouveau. C'est-à-dire que quand le film débute, les gens sont extrêmement contents de rentrer dans la fraternité parce qu'ils veulent se faire des amis, parce qu'ils sont heureux d'y participer. Et très vite, en fait, la joie de rejoindre une fratrie disparaît. Ils se retrouvent piégés dans cette fratrie avec une question de volonté et en même temps d'honneur. Et ceux qui partent sont très mal vus et on essaye d'en ramener et tout. Et la fin, de manière plus légère... en dépit de la situation, m'a un peu fait penser à West Side Story. Ouais, je suis sur les références floues, mais j'y reste. Notamment parce qu'il y a une rixe entre deux bandes. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Et c'est une rixe qui arrive après du coup la fête de fin d'année, donc après un concert. Un peu comme dans West Side Story. On a pareil les deux groupes qui se réunissent pour se annoncer le combat. Ils annoncent les armes. Ils vont pas s'en tenir aux armes qu'ils ont annoncées. Donc ça a rien à voir, mais ça m'a fait rire. Et la rixe arrive parce que l'un des gars d'une fratrie est amoureux de la fille du chef de l'autre fratrie. Il y a beaucoup de points communs, je trouve, qui n'ont rien à voir, mais qui m'ont fait un peu rire dans un film qui est au final très très sombre avec ses tortures et l'horreur qu'il montre. Surtout avec l'idée que tout ce qu'il subit, il le répète derrière.
Écoutez l'équipe de Culture Prohibée débattre autour du cinéma de Mike De Leon. Je pense que ta référence n'est pas floue. Je pense que je pense que le film de Robert Wise et Jérôme Robbins est cité volontairement et que, en fait, c'est aussi une manière de rebondir sur tous ces films de fraternité américaine, Alpha Kappa Omega, qu'on retrouve dans plein de films américains, voilà, et y compris dans plein de films d'horreur, des slashers, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément et dans plein de comédies plutôt anodines. Là, le film leur renvoie à quelque chose qui est beaucoup moins anodin. Et ce qui est intéressant, je trouve, hein, c'est un formidable metteur en scène de thriller, parce qu'en fait, c'est un metteur en scène qui génère ces films génèrent une angoisse sourde qui est assez prenante. Alors, dans Batch 81, c'est assez évident, puisque c'est un pur thriller, mais c'est la même chose dans E-Team ou dans Kizapmata. En fait, on sent quelque chose monter, une tension, il y a une tension qui est là, sans qu'on sache vraiment décrire en quoi consiste cette tension, qu'est-ce qui génère cette tension, mais elle est bien là. Et ça finit toujours par exploser à la fin. Alors, pas forcément de manière très graphique, mais effectivement, ça finit toujours par exploser. Batch 80 est aussi un film très court, et je pense que c'est volontaire, parce que sinon, ça aurait été un film totalement insupportable.
Je trouve que ce qui rend le film encore plus noir, Batch 81, c'est que c'est quand même un film sur l'asservissement volontaire, quoi. Le personnage principal, à aucun moment, il ne doute de quitter la fratrie, alors que quand même, il y a des morts, il y a de la violence. Et puis, moi, j'y vois aussi, je pense, une référence à Orange Mécanique, la montée de la violence, hein, les gangs, etc. Et aussi cette utilisation de la musique synthétique qui rappelle les adaptations de Walter Carlos de la musique de Beethoven, et de la façon dont il l'utilise à contrepoint, notamment dans la fameuse rixe à la fin. Ça me fait beaucoup penser à Kubrick.
C'est intéressant parce que j'ai pensé à un moment à Orange Mécanique, mais pas de la même façon que toi. C'est justement dans la scène de balle de fin, un moment où l'un des groupes, l'une des fraternités vient s'en prendre à l'autre groupe, et tu as le chef justement du groupe qui est déguisé en personnage de Orange Mécanique mélangé avec un peu du maquillage de Kiss. J'ajouterais aussi un point sur le fait qu'il utilise beaucoup l'expérimental sur ses, films, c'est-à-dire que sur certaines pellicules, du coup, il les a abîmées pour donner de l'effet, et il les a tellement abîmées qu'il a fallu les restaurer en grande partie pour refaire la ressortie des films.
Je vais conclure en abordant aussi les films dont on a moins parlé, qui sont présents dans le coffret. Alors il y a plein de choses, il y a plein de bonus, il y a plein de... Bon, on ne peut pas tout vous décrire en détail, mais on va surtout se concentrer sur les longs métrages. Hein, et dans les longs métrages présents, donc il y a ce que Thomas appelle les films que j'aime pas, mais c'est pas que je les aime pas, mais je les trouve moins intéressants que le reste du coffret. C'était un rêve et Le paradis ne se partage pas, deux histoires sentimentales, même si c'est des films... Damien, quand tu dis de référence à West Side Story, où on sent effectivement cette grande influence du cinéma américain. Il n'y a pas que le côté telenovelas, il y a le côté aussi Dallas et puis le côté comédie musicale qu'on retrouve. Et d'ailleurs, ce côté comédie musicale, on l'a aussi dans Frisson. Mais même ces deux bluettes sentimentales là, dont je parlais, n'oublient jamais une chose. C'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans tout son cinéma. C'est la manière dont sont maltraitées les femmes par une société phallocrate. Et c'est un cinéaste féministe. D'ailleurs, il ne travaille quasiment qu'avec des femmes, en fait, en vérité. C'est dans la production de ses films, dans son entourage professionnel. Il travaille énormément avec des femmes. Et c'est, pour le coup, lui, c'est un cinéaste féministe et conscient, à mon avis, et c'est un féminisme totalement volontaire et militant.
D'ailleurs, l'un des personnages principaux du Paradis ne se partage pas. Dès qu'il apparaît, on devine que c'est un salaud, quoi. C'est une ordure. Et il a tendance à effectivement ménager son personnage féminin principal, mais aussi le personnage féminin secondaire, qui pourtant intrigue aussi, mais il est quand même beaucoup plus complaisant avec elle qu'avec l'autre salopard.
Je vais terminer en abordant deux films qui viennent beaucoup plus tard, parce qu'il a eu des grandes pauses dans sa filmographie, hein. Deux films qui viennent beaucoup plus tard et qui sont présents dans ce très beau coffret édité par Carlotta Film, donc Mike de Leon. Deux films de Mike de Leon qui sont Héros du Tiers-Monde, un film de la fin des années 90, de 99, et Citizen Jake, un film de 2018. Alors, Héros du Tiers-Monde, c'est un film qui rejoint des thèmes qu'on a abordés. Hein. Tu parlais tout à l'heure de catholicisme, voilà. En fait, qui raconte l'histoire de deux réalisateurs. Ça a un petit côté un peu Lars von Trier, je trouve. Les premiers films de Lars von Trier, où on voit des scénaristes au travail et tout ça et tout. Là, on voit deux réalisateurs qui tentent de relever le défi de réaliser un film sur le héros national philippin José Rizal. Et la vraie question qui se pose, qui est au centre de tout le film, est-ce que, en gros, il mérite ce titre de héros national ? Il a été exécuté par le gouvernement colonial espagnol parce que c'était un rebelle. Après le déclenchement de la révolution philippine en 96, mais en fait, les deux metteurs en scène du film, metteurs en scène scénaristes, voilà, se posent la question, est-ce qu'il a, oui ou non, résisté, s'est opposé jusqu'au bout à l'Église catholique, ou est-ce qu'il s'est rallié à l'Église catholique ? Et le film est construit autour de ça, et en fait, le film fait des allers-retours, passé, présent, utilise beaucoup d'artifices de mise en scène, artifices au bon sens du terme, où on voit quand même que Mike de Leon a une grande maîtrise de la caméra et de la mise en scène, et ça donne un film hybride très étonnant, assez jouissif quand même, moi qui m'a beaucoup éclaté, même si j'avoue mon inculture quant à José Rizal, c'est vraiment, il a fallu après quand même que je me penche sur le personnage et que j'aille faire quelques petites recherches dessus, parce que à un moment je me demandais, au début j'étais un peu perdu de quoi le film me parle, et puis après, en ayant été un peu me renseigner sur le personnage, j'ai pu regarder Héros du Tiers-Monde, donc de Mike de Leon, d'un autre œil. Et enfin il y a Citizen Jake, qui est un film qui est une parabole en fait sur la corruption, à travers la corruption au sein d'une famille, qui décrit, alors Citizen Jake, Citizen Kane évidemment, et là qui décrit le travail donc d'un journaliste, Jacques Herrera, et qui est un journaliste obsédé par la corruption, donc y compris au sein de sa propre famille. Et est-ce que son père sénateur était corrompu, pas corrompu? Bon, on devine très vite que c'était un type pas clair. Et lui, il enquête là-dessus, quatre conséquences sur sa famille et tout et tout. Film un peu particulier, un peu à part dans sa filmo, esthétiquement très réussi. Il exploite vraiment la vidéo au maximum de ses capacités. Donc je dirais toutefois qu'il est un peu long. C'est un thriller qui est un peu long, thriller politique, thriller... Mais on retrouve le Mike de Leon, en fait, qui fait la jonction entre un vrai propos autorisant, mais aussi un vrai cinéma populaire, avec un thriller quand même assez efficace sur ce qu'est la corruption et sur l'impact de la corruption, y compris au sein de la cellule familiale. Qui donc, la cellule familiale, est une métaphore de l'État. Donc vous l'avez compris, on vous recommande chaudement ces deux coffrets, le coffret Shinya Tsukamoto sorti chez Carlotta Film et le coffret Mike de Leon sorti également chez nos amis de Carlotta Film. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.